Jean Tonelli s'entretient avec Marie Milesi.
Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Poêles à accumulation, le meilleur du chauffage au bois ». Quand on lit votre livre, on s'aperçoit que ces poêles proviennent des pays du Nord, canadiens, finlandais, danois et russes. Que s'est-il passé dans ces pays pour inventer ce type de chauffage ?
Il ne s'est rien passé de très surnaturel. Je pense que les gens ont compris il y a très longtemps que quand ils laissaient des pierres dans le feu, et bien même après l'extinction du feu, elles restaient chaudes. Et du coup, ils ont utilisé ces principes pour garder la chaleur après l'extinction du feu. Du coup, et c'est très étonnant qu'en France, on n'ait pas utilisé ces principes, hors pour les fours à pain, qui utilisent ce principe de l'inertie du matériau. Voilà. Mais c'est pas uniquement du Nord, c'est aussi beaucoup de pays de l'Est en Asie. Il y en a également en Chine, dans toute l'Europe de l'Est, même en Italie. La France les pays plus du sud, on est un peu des exceptions, mais je pense que c'est lié à la longueur de l'hiver.
Donc vous êtes en train de vouloir établir ce retard, enfin du moins d'arrêter cette ignorance concernant ces poêles, et vous êtes donc parti sur la description de différents types de poêles, et en fait on s'aperçoit qu'il y a plusieurs systèmes pour faire un poêle à accumulation.
Oui, il y a beaucoup de systèmes différents.
Donc le principe de base déjà, commençons par le principe de base, vous l'avez déjà évoqué, c'est on accumule la chaleur par rapport à une masse, qui peuvent être des pierres, qui peuvent être peut-être autre chose.
Oui, alors en fait il y a deux grands principes. D'abord, il y a une combustion performante. Les foyers, ils sont conçus de manière à retirer un maximum d'énergie du bois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les utiliser au ralenti, on les utilise toujours à pleine puissance, donc on fait des flambées très très intenses. Et la différence avec la plupart des poêles classiques qu'on utilise, c'est qu'on injecte de l'air secondaire au-dessus des flammes qui permet aux gaz qui sont produits par la combustion, ça permet à ces gaz de brûler à leur tour. Et c'est pour ça qu'on récupère plus de chaleur avec une même quantité de bois que sur un poêle normal. Et toute cette chaleur, dans un poêle en métal, elle irait vraisemblablement en grande partie chauffer l'atmosphère par le conduit de cheminée. Et dans les poêles à accumulation, les fumées chaudes, donc qui atteignent des températures vraiment très élevées dans le foyer, jusqu'à 1000 degrés, voire plus, circulent dans un circuit, donc soit en... Le plus souvent, c'est en brique.
En brique réfractaire, je suppose.
La brique réfractaire, c'est surtout pour le foyer, parce que c'est là que les températures sont le plus élevées. En fait, le principe du réfractaire, ça veut dire que le matériau résiste à des températures très, très élevées. Et dès qu'on sort du foyer, on est déjà dans des températures plus basses. Et du coup, avec mon co-auteur Vital Bies, nous, on préconise plutôt l'usage de la brique de terre crue, parce que moins énergivore à fabriquer. Et si on doit acheter du matériau, autant utiliser un matériau plus écologique. Du coup, la terre crue, ça résiste à des températures quand même assez...
importante.
Et puis, donc les températures des fumées qui circulent dans la masse ne sont pas si hautes. Et donc ensuite, une fois que le feu est terminé, ce sera la masse qui chauffera la maison, ce ne sera plus le feu. Mmh. Alors que dans un poêle en métal, dès qu'il n'y a plus de feu, il n'y a plus de chaleur.
Oui, c'est très simple à comprendre en définitive. Il y a une accumulation de chaleur qui se fait dans cette masse et qui est redistribuée petit à petit.
Voilà, donc en général, les feux, on fait... 1 à 3 heures de feu par jour pour avoir 24 heures de chaleur. C'est très économique.
En revanche, quand on voit les photos et les dessins explicatifs qui sont très bien faits d'ailleurs, on s'aperçoit que un poêle de ce type est quand même assez imposant.
Oui, alors ça c'est un frein pour pas mal de gens. Et c'est imposant et en plus il est important que son emplacement soit central. Parce que ça chauffe essentiellement par rayonnement. Donc au lieu de chauffer l'air, ça chauffe les masses. Et donc le rayonnement, peut-être je vais faire un petit rappel, expliquer comment ça fonctionne. Il s'agit d'un flux d'énergie, donc en fait un déplacement de chaleur, mais qui déplace en ligne droite dans toutes les directions sans chauffer l'air. Et il chauffe les masses, c'est-à-dire qu'il va chauffer les murs autour du poêle. Et ceux-ci, une fois chauds, ils vont rayonner à leur tour pour chauffer les autres murs et puis les gens qui passent. Du coup, c'est un chauffage très simple parce que ça n'assèche pas l'air.
Et en plus, c'est un chauffage qui donne l'impression d'avoir plus chaud. Parce que quand on réchauffe que l'air et que les murs sont froids, la sensation de chaleur n'est pas ressentie autant que l'énergie qui est dépensée pour chauffer l'air.
Oui, ça c'est très important, la température des parois pour le confort thermique de l'être humain, ça compte beaucoup. Et on l'oublie souvent parce que on assimile souvent le confort thermique juste à la température de l'air. Ça c'est une erreur qui nous amène souvent du coup à surchauffer l'air pour compenser un inconfort dû aux parois froides.
L'autre, je dirais, léger inconvénient, et je joue sur les mots exprès, c'est le poids de ce poêle. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas le construire n'importe où, parce qu'on arrive à des poêles qui peuvent représenter combien de kilos suivant leur taille?
Alors on considère que c'est un poêle de masse à partir de 800 kilos, mais bon, en général c'est au moins 2 tonnes et ça peut aller jusqu'à 5 tonnes, voire plus, mais bon là c'est des très gros poêles.
Donc du coup il vaut mieux prévoir de vérifier avant de l'installer que le plancher qui va le supporter puisse accepter ce genre de poids.
Oui, voilà, ça c'est très important. Donc si on est sur terre plein, ben, il n'y a pas de problème, hein, le sol supporte des grosses charges. Mais par contre, si sous le logement il y a une cave ou un vide sanitaire, il faut absolument construire renforcer soit par des piliers, soit par un mur. Mais là, il faut vraiment être certain qu'on ne risque pas d'effondrement ou de tassement du bâtiment.
Au niveau aspect décoratif, je dirais que le fait qu'il soit imposant peut être un élément du décor intéressant.
Oui, parce que c'est pas uniquement. Enfin, on peut utiliser cette énorme quantité de briques pour construire, par exemple, des banquettes. Mm-hmm. Donc, ça permet d'intégrer le poêle au mobilier utile. Donc, par exemple, on peut s'asseoir dessus. On peut aussi faire des murs chauffants, donc qui peuvent servir de séparation entre deux pièces, donc chauffer deux pièces par rayonnement.
Voilà. Sans servir de soubassement pour un escalier, j'ai vu ça aussi. C'est assez intéressant.
C'est intéressant qu'il soit à proximité d'un escalier qui, comme ça, la convection. Donc quand le poêle il chauffe malgré tout un peu d'air, on considère qu'il y a 20 à 30% de convection dont la chaleur est mise. Si le poêle est à proximité d'une cage d'escalier, bah, cet air chaud va chauffer les étages plus facilement.
Vous disiez tout à l'heure que la flambée est importante, hein, ce sont des grands feux que vous faites. Enfin. Et en termes de pollution, parce que c'est vrai que le chauffage au bois est moins polluant que d'autres chauffages, mais en même temps, est-ce que la combustion avec cet air secondaire est meilleure qu'un poêle traditionnel?
Oui, carrément, elle est bien meilleure. Alors, en fait, le chauffage au bois, c'est moins polluant, ça dépend. Ça dépend de plusieurs facteurs. D'abord, il faut que le bois soit très sec. Que le bois soit local, parce que s'il vient de loin, bah, il pollue par son transport. Et si la combustion est incomplète, ça, c'est un usage très répandu de fermer tout le tirage et puis de laisser le feu couver pendant toute la nuit pour avoir des braises le lendemain. Et du coup, il n'y a pas de flamme, il y a juste de la braise qui est légèrement entretenue. Et donc là, en fait, il se dégage énormément de gaz polluants, notamment beaucoup de méthane, qui a un pouvoir de réchauffement global 23 fois supérieur au CO2, alors que on accuse le CO2 d'être responsable de l'effet de serre, mais il n'est pas le seul. Et notamment le méthane qui est fortement produit par ce genre d'usage de poêle à bois, qui est très très répandu, ça contribue énormément à polluer. C'est parfois plus polluant que le charbon. L'avantage avec les poêles de masse, s'ils sont bien utilisés, c'est qu'on fait une flambée très intense. Donc il n'y a pas d'imbrûlé. Tout le méthane qui est produit, lorsqu'on fait couver le feu, il pourrait produire la chaleur en brûlant. Et comme ça, il ne polluerait pas. Grâce à ces conceptions de foyer qui injectent de l'air secondaire et puis qui ont des formes. La forme du foyer aussi influe sur la combustion parce qu'elle permet un meilleur brassage des gaz avec l'air et du coup une combustion plus complète. Au final, on obtient moins de produits polluants avec la combustion. Et moins de composés organiques volatiles et moins de gaz comme le méthane. Il y en a d'autres.
Donc en fait, là, on s'aperçoit que ce type de poêle, c'est vraiment, j'allais dire de façon populaire, tout bénef. En termes de rayonnement, on a une sensation de chaleur plus importante et un confort accru. En termes de pollution moindre, et je pense qu'en termes de coût, quand on est en autoconstruction et qu'on utilise de la brique crue, en terre crue, on est quand même très raisonnable.
Oui, alors par contre, il faut que je précise, parce que pour le foyer, on a quand même besoin de briques réfractaires. Ça représente quand même, c'est un peu cher. Et puis les briques de terre crue, bon, à moins de les faire soi-même, ce qui est possible dans certains cas, ça représente quand même un coût. Hein. Il y a aussi toute la quincaillerie, la partie quincaillerie qui représente un budget conséquent. Notamment si on veut une porte vitrée, on n'en trouve pas en France, on en trouve plutôt en Finlande. C'est quand même assez cher. Mais après, il y a des possibilités de faire de la récupération sur de vieux poêles. Si on est moins exigeant Par exemple, si on n'a pas besoin d'une porte vitrée, on peut récupérer des portes de poêle classiques, quoi.
Qui résistent à la chaleur, quand même.
Indispensable, c'est qu'il faut que la porte soit étanche.
Voilà. Oui. Voilà. Et résiste à des chaleurs, à des températures importantes.
Oui, mais bon, elles sont... Après, elles sont conçues pour.
Hein. Bah écoutez, moi j'ai été ravi de m'entretenir avec vous sur ce sujet. Votre livre est très clair, très bien documenté, une iconographie très sympathique, des schémas clairs et précis. Vraiment un régal, et ça donne envie de se chauffer avec ce mode de chauffage que l'on va considérer entre nous comme très écologique si on fait ce que vous venez de nous dire, éviter d'aller chercher des matériaux qui se transportent de trop loin.
Oui, et puis si on l'utilise correctement, hein, oui. Les gens sont satisfaits s'ils s'en servent bien.
Ouais.
Mais merci de ces compliments, parce que c'est un peu notre envie, c'est d'arriver à communiquer notre enthousiasme pour ces appareils.
L'ouvrage « Poêle à accumulation » a été écrit par Vital Bise et Marie Milesi. Il est disponible aux éditions Terre Vivante.